Alors, le 1er mai, c'est traditionnellement la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs. Ce 1er mai 2020 est certes confiné, mais ça n'empêche pas la volonté du mouvement syndical d'en faire une journée de lutte. PFM a décidé de s'en faire l'écho de manière radiophonique. Nous recevons donc les représentants de trois organisations syndicales qui ont lancé l'appel plus que jamais le 1er mai. Avec nous, donc, Catherine Piécuche, qui est secrétaire départementale de la FSU du Pas-de-Calais. Catherine, bonjour. Grégory Glorian, qui est secrétaire départemental de la CGT 62. Grégory, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Et puis Fabrice Aubaton, qui est secrétaire de l'Union départementale solidaire 62. Fabrice, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Alors, au cours de cette table ronde intersyndicale, il sera bien sûr question du 1er mai, la lutte syndicale en temps de confinement, des perspectives de sortie du confinement et des suites, ce qu'on appelle le jour d'après. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vivez, vous, personnellement, mais aussi dans vos équipes syndicales, la période actuelle? Alors pour commencer, peut-être Catherine.
Oui, ben je pense que deux mots sur le plan personnel, parce qu'on est nombreux, je pense, à être dans la situation. On a tous des proches en situation de fragilité, donc ça crée forcément de grandes inquiétudes. Maintenant, sur le plan syndical, je dirais qu'on poursuit le travail que l'on faisait habituellement, mais il y a une explosion aussi des demandes de soutien de personnel, hein, alors en l'occurrence beaucoup pour nous à la FSU dans la fonction publique, parce que le non-respect d'un certain nombre de droits se multiplie. Donc on travaille énormément, je pense comme mes camarades de Solitaire et de la CGT, sur des horaires de plus en plus larges. Nos bureaux ont été bien évidemment fermés, hein, avec le confinement. Donc tout le travail se fait soit par téléphone, soit en visio également. Voilà.
Merci Catherine. Grégory, toi, ton ressenti personnel et puis aussi comment les équipes syndicales de la CGT vivent la situation?
Alors d'abord, je suis un papa, donc je m'inquiète pour mes trois enfants, qui sont pour deux d'entre eux au boulot et une qui va reprendre le 11 mai. J'ai un garçon qui travaille dans une usine de traitement des déchets à Dourges, une fille qui travaille à l'hôpital de Seclin, et ma petite dernière qui est en deuxième année de fac et qui travaille 8 heures par semaine dans une école primaire à Hénin-Beaumont. Donc, je suis inquiet pour mes enfants, comme sont tous les parents, et aussi inquiet, là, c'est dans le cadre syndical, pour l'ensemble des salariés de ce pays. Nous, on s'est adapté, mais je pense que, comme mes deux camarades, on a eu un petit peu de mal au début à s'adapter, parce que, oui, effectivement, on s'adapte avec les visioconférences, les réunions téléphonées. On a mis en place un dispositif de réponse aux appels des salariés. Alors, nos syndiqués, ils savent nous joindre, mais on a beaucoup d'appels extérieurs et c'est ça le plus difficile à gérer, notamment en ce qui nous concerne à la CGT, dans le monde du transport, dans le monde des aides à domicile.
Ok, et puis même question pour toi, Fabrice, ton ressenti personnel et puis au niveau syndical, comment vous vivez ça?
Oui, non, bah, après, ça va être comme mes deux camarades, hein. C'est une période qui provoque beaucoup d'inquiétude auprès de tout le monde, que ce soit nous personnellement, et puis aussi effectivement dans nos équipes syndicales, hein. Bon, sur notre travail, il y a effectivement, comme l'ont dit Grégory et Catherine, hein, il a fallu s'adapter. Moi, je rajouterais que nos organisations syndicales sont des organes démocratiques et il a fallu en plus adapter notre fonctionnement démocratique également. C'est vrai qu'on a des visioconférences tout le tour du ventre, je pense, tous, hein. On passe beaucoup de temps avec ce système en téléconférence pour consulter nos équipes, etc. Ça a été complètement une autre façon de travailler sans la disponibilité de nos locaux. On a le même problème, effectivement, avec les formations de nos camarades, hein, puisqu'on a dû suspendre toute une partie de nos activités. Bon, après, le plus important, c'est que par tous ces systèmes, le téléphone, le mail, mon organisation syndicale au niveau national a par exemple mis en place un numéro vert ouvert à tous les salariés. On réussit à répondre à leurs demandes, on réussit à les rassurer parce qu'il y a de fortes craintes des salariés par rapport à cette maladie, par rapport à leurs conditions de travail, sur les pressions patronales effectivement, mais je pense qu'on va en reparler. Et on réussit malgré tout, on s'est adapté, même s'il a fallu un petit peu de temps au départ. mais on s'est adapté et on réussit encore aujourd'hui à faire vivre nos organisations indispensables plus que jamais en ce moment.
Alors, vos trois organisations syndicales sont signataires de l'appel national plus que jamais le 1er mai. Alors, une série de questions sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet appel? Pourquoi mettre l'accent sur cette date du 1er mai? Et puis, est-ce que pour vous, est-ce que c'est le moment de renouer avec l'action collective malgré le déconfinement? Concrètement, comment ça va se dérouler? Alors, Grégory, pour commencer.
Ouais, moi, je pense, nous, on prend le 1er mai comme un temps fort. L'action ne s'est pas arrêtée. Elle a pris, comme vient de dire Fabrice, d'autres modes. On a dû s'adapter parce que ben, on a envie aussi de se mettre en sécurité. Et pour autant, on ne va pas arrêter le combat. Il voudrait qu'on arrête le combat, mais on ne l'arrêtera pas. Donc, moi, le 1er mai, je le prends comme un temps fort sur l'ensemble de notre plateforme revendicative, y compris là, ensemble sur notre plateforme revendicative commune, notamment dénoncer l'utilisation de cette période pour déroger au code du travail. Nous, on est sur des demandes qui sont progressistes et ils se servent de ça pour une régression sociale. Je pense aux 60 heures, je pense aux congés payés, etc. Voilà. Donc, le 1er mai, moi, je le prends comme un temps fort. On est en lutte encore aujourd'hui, on est le 29 lors de cet enregistrement. On a un tas d'actions qui sont menées et c'est marquer le coup le 1er mai, mais ça continue le 2, le 3, le 4, le 5 et jusqu'au 31 décembre. Bis repetita.
Merci Fabrice. Un complément sur le choix de cette date du 1er mai, puis le contenu de cet appel national.
Oui, mais sur le 1er mai, il faut quand même se rappeler que c'est une date extrêmement importante et historique hein, dans les luttes ouvrières à travers le monde. C'est une journée qui est la journée de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Et là, comme l'a rappelé Grégory juste avant, les attaques qu'on subit contre nos conquis sociaux, plutôt que de dire acquis, c'est vrai qu'on préfère dire conquis sociaux, parce qu'on ne nous a rien donné, hein, tout a dû être conquis par nos actions syndicales dans le passé. Ben, les attaques sont extrêmement importantes, hein, que ce soit le temps de travail, les congés, les conditions de travail, par exemple, des attaques contre les chômeurs, des attaques sur les salaires. Et donc, c'était important de faire revivre cette date qui est vraiment la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Il faut vraiment qu'on remette les droits des travailleurs en avant à l'occasion de ce 1er mai. Donc, sur la façon dont ça va se manifester, effectivement, hein, hier, dans son discours, Édouard Philippe a indiqué qu'il n'y aurait pas de rassemblement public de plus de 10 personnes avant le mois de septembre, hein, ce qui, en gros, nous interdit les manifestations publiques. Donc, actuellement, on s'était mis d'accord sur des manifestations qui pouvaient avoir lieu par des banderoles, des affiches, des drapeaux, etc., sur les balcons, sur les fenêtres, pour que chacun montre sa solidarité envers tous les travailleurs dans les luttes que nous devons mener actuellement et qu'on devra mener dans les jours d'après également.
Merci Fabrice. Alors Catherine, plus que jamais le 1er mai.
Oui, moi je trouve qu'effectivement le slogan qu'on a en commun est bien choisi parce que c'est plus que jamais aujourd'hui le moment de remettre le monde du travail au cœur et puis le rôle des organisations syndicales pour le respect des droits et donc des acquis ou conquis sociaux. C'est vrai que depuis le confinement, eh bien, il est fait peu de cas, hein, d'une manière générale, dans les médias dominants, des situations qui sont vécues par les salariés, les agents des services publics, etc., alors que les droits sont remis en cause pour tous. Donc, ça a été développé pour les salariés du privé, mais pour les agents du public également, hein, puisqu'il y a eu des ordonnances qui ont été décalquées sur le même modèle. Donc, il faut qu'on réentende et qu'on reprenne la main pour qu'on réentende le monde du travail. Et le 1er mai, c'est vraiment plus que jamais ce moment-là. Alors, on ne pourra pas les réentendre de la façon habituelle, et comme l'a dit Fabrice, pas avant un certain temps. Alors, c'est vrai que l'occasion que vous nous donnez à PFM, c'est une occasion privilégiée. Mais aussi, il y a cette campagne commune, et ça, c'est extrêmement important qu'on puisse faire cette démarche commune, unitaire, sur le 1er mai, à la fois par les réseaux sociaux, mais aussi avec une visibilité réelle, hein, comme Fabrice l'a redit, en mettant des affiches, des banderoles, chacun là où il le peut, dans les quartiers, là où on le peut aussi, quand sur une petite placette où il y a plusieurs voisins, ben, de dérouler quelque chose en commun, qu'on arrive à reprendre la main et avoir une visibilité, une vraie visibilité, parce que c'est important. Actuellement, je veux dire, la parole syndicale, elle est largement minimisée.
Alors, vous y avez fait allusion largement tous les trois déjà. L'action syndicale ne s'est pas arrêtée avec le confinement. Alors, que dire des conditions de travail actuelles, le télétravail, c'est pour ceux qui peuvent le faire, évidemment. Et puis, quelles sollicitations vous avez reçues des salariés, et comment vous y répondez? Alors, Fabrice, pour commencer.
Oui, alors, bon, effectivement, depuis le début du confinement, hein, depuis le début de cette crise sanitaire, les sollicitations ont été extrêmement nombreuses. Hein. Nous l'avons tous les trois rappelé un peu tout à l'heure, l'activité syndicale est loin de s'être arrêtée. Donc, nos premières sollicitations, c'était répondre aux inquiétudes de nos équipes et puis des salariés sur le terrain. On a eu beaucoup de demandes, par exemple, au départ de cette crise pour accompagner des droits de retrait, pour permettre aux salariés de quitter une situation de danger qu'ils avaient au travail liée à cette crise sanitaire. Et je ne doute pas que ce genre de situation va pas mal revenir à partir du déconfinement le 11 mai, hein, puisqu'actuellement, il y a une forte pression des différents employeurs pour forcer la reprise du travail. On a eu beaucoup de sollicitations justement sur le matériel que les patrons devaient nous mettre à disposition, etc., pour réussir à travailler. Donc après, il y a effectivement eu pas mal de questions sur le télétravail. Donc par exemple, syndicalement, je pense que nos trois organisations ont mis en place toute une série de jeux, de fiches pratiques, de fiches juridiques pour accompagner les équipes, accompagner les salariés à mieux comprendre ce qu'on leur demandait, ce qu'on avait le droit de leur demander, ce qu'on n'avait pas le droit de leur demander. Mais c'est sur ces sollicitations, moi j'aimerais quand même, puisque tu parlais de conditions de travail, clairement, elles se sont fortement dégradées en fait, hein. On ressent chez les salariés une forte inégalité entre ce qu'on appelait avant l'école blanc, ceux qui travaillaient dans les bureaux, qui aujourd'hui sont majoritairement passés en télétravail. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont des mauvaises conditions, parce que le télétravail, effectivement, il y a des sollicitations permanentes de leur employeur, ça mange sur le temps de vie privée, ça mange sur la vie de famille, le temps de travail n'est plus limité avec ce télétravail, etc. Donc, il y a d'autres soucis. Et par contre, les anciens qu'on appelait l'école bleue, donc les salariés qui sont encore en production, qui vont encore travailler et qui sont extrêmement exposés au virus. Et pour terminer, moi, je pense quand même pas mal, on a dû beaucoup aider également des salariés qui habituellement sont assez isolés, des salariés de sous-traitance, par exemple les salariés de la sécurité, les salariés du nettoyage, hein, puisque parfois les donneurs d'ordre, donc les entreprises qui emploient ces autres entreprises pour nettoyer leurs entreprises, ne s'occupent pas du tout des salariés qui sont en sous-traitance, par exemple. Voilà. Donc là, on avait toute une série de salariés qui étaient vraiment encore plus exploités, encore plus en difficulté que d'autres, et qui, malgré tout, je pense que Catherine et Grégory pourront le confirmer, ont su appeler les organisations syndicales pour réussir à se défendre. En fait, avec cette crise, ceux qui nous ont beaucoup sollicités, c'est ceux que le président de la République considérait qu'ils n'étaient rien. Vous savez, ceux qu'on ne voyait jamais. Il l'avait dit dans une gare, hein. Dans les gares, on croise ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Ben, en fait, ceux qui ne sont rien, en fait, ils ont une énorme utilité sociale et là, on ne mesure pas leur importance avec leur réussite financière. Et ça, c'est quelque chose également qu'il va falloir retenir, à mon avis, pour l'après.
Alors, Catherine, même question. Quelles sollicitations vos organisations syndicales ont reçues de la part des salariés?
Alors nous, pour la FSU, on est essentiellement dans la fonction publique, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu tout à fait les mêmes problématiques. Beaucoup d'agences ont pu être en télétravail. Donc globalement, je dirais que dans un certain nombre d'administrations, ça s'est à peu près correctement passé. Après, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, sur les débordements du télétravail et toutes les conséquences que cela a pu avoir pour la vie personnelle. Le fait de devoir aussi cumuler télétravail et puis suivi des enfants à domicile, hein, c'est quelque chose de lourd. Après, nous, on est fortement présents dans l'éducation et là, on a été beaucoup sollicités avec donc c'est pas du télétravail, hein, dans l'éducation, c'est une continuité pédagogique que nous, on a renommée une discontinuité pédagogique vu les inégalités liées aux multiples fractures, hein, sociales et numériques notamment. Mais on a été saisi alors d'énormément de personnel, hein, que ce soit les enseignants, que ce soit les AED, les AESH, je dirais les AED et les AESH tout au début, parce qu'on avait un certain nombre de chefs d'établissement ou d'IEN qui voulaient venir les faire venir malgré le confinement en présentiel, hein, ce qu'on a pu faire valoir leurs droits et qu'ils puissent aussi rester à domicile pour respecter le confinement. Et chez la même chose pour les CPE, hein. On a eu les mêmes problématiques. Et puis, chez les enseignants, ça a été, comment dire, du management puissance 1000, hein, avec beaucoup de chefs d'établissement qui se sont lâchés, je vais dire, entre guillemets, pour faire du contrôle de petits chefs, quelquefois demi-journée par demi-journée, demander aux collègues de leur envoyer la preuve qu'ils avaient fait du travail avec leurs élèves. Enfin, on a vraiment été dans des situations hallucinantes. Et régulièrement, donc on est intervenu aussi hein, pour faire cesser tout ça. Et là, depuis qu'il est question, depuis 15 jours, d'une réouverture, eh bien, on a aussi de nombreux dérapages avec des chefs d'établissement qui veulent faire venir les personnels avant le déconfinement, qui imaginent des tas de plans qui ne correspondent à aucune norme sanitaire, etc. Donc, on est là, on appuie vraiment pour les personnels, faire respecter les droits. Alors, comme pour mes camarades, hein, nous aussi, on a mis en place beaucoup de documents, des foires aux questions, pour que les collègues puissent s'approprier de leurs droits de façon très, très simple et puisse avoir en permanence les réponses parce que tout bouge hein, jour après jour. Il y a une chose qui était bonne hier qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc, pour pouvoir vraiment coller aux évolutions et permettre l'application des droits, le respect des droits stricts de tous les personnels.
Alors, Grégory, une dégradation des conditions de travail et un regain de l'activité syndicale et des sollicitations des salariés pendant le confinement ?
Oui, on vit les choses autrement, on s'adapte, hein, on l'a dit tout à l'heure. Alors, comme mes camarades, effectivement, notre confédération a également mis en place un numéro vert. On a le service droit juridique de la confédération qui a mis en place des fiches questions-réponses également, qui sont envoyées dans toutes nos bases tous les jours, parce que Catherine a raison, ça évolue tous les jours. On nous sort des décrets, donc il y a des camarades là-bas à la Confédération qui scrutent ça et qui analysent et qui nous envoient des notes. Et on a intérêt d'être tous les matins devant l'ordinateur pour être à même de pouvoir prendre connaissance de ces choses-là. Donc, c'est envoyé à toutes les bases, je l'ai dit, c'est sur la page Facebook de Pas-de-Calais qui a triplé en vue. Je pense que c'est pareil pour mes camarades. Ils vont chercher un peu partout les salariés qui ne sont pas syndiqués d'ailleurs. Il faudra qu'ils le soient, peu importe, hein, mais il faudra qu'ils le soient demain, parce qu'il faudra grandir le rapport de force. Mais ça, c'est une question qui viendra après, je pense. Maintenant, on va vivre les choses autrement. Le télétravail, ça pose un certain nombre de soucis. Ça peut être une forme de harcèlement, ça peut être une forme où y compris le salarié n'est pas à l'aise en télétravail parce qu'il n'y a pas le contact avec ses collègues, il n'y a pas ce qu'on appelle nous autour de la cafetière des idées qui arrivent et puis qu'on dit bah tiens voilà bon voilà ça pose un certain nombre de questions. Nous sur le fonctionnement on s'appuie également beaucoup sur nos professions, on est organisé en profession. C'est pas moi qui va répondre sur la question des enseignants par exemple, c'est le CNCGT Action. Donc on a tout un dispositif qui a eu un peu de mal à se mettre en place les 15 premiers jours, mais qui tourne bien aujourd'hui. J'espère, ceci dit, qu'on va sortir, que ce virus sera éradiqué, qu'on pourra continuer nos réunions en visu, et puis qu'on pourra continuer ensemble, comme on avait l'habitude de le faire le 1er mai, avec une intervention de Catherine ou intersyndicale, parce que ça me manque tout ça.
Alors, le gouvernement a mis la date du 11 mai comme perspective de sortie du confinement. Comment vous abordez cette question de la sortie du confinement ? Alors, Catherine, pour la FSU, Pas-de-Calais.
Nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que cette date, elle n'est pas déterminée par des conditions sanitaires. Or, ça devrait être la priorité pour tous, hein, que ce soit les salariés, que ce soit les enfants, que ce soit l'ensemble de la population, puisque sinon ça va conditionner une possible deuxième vague et puis un débordement des hôpitaux et encore des victimes supplémentaires, aussi bien chez les soignants que dans l'ensemble de la population. Donc ça, c'est la première critique hein, sur laquelle je pense qu'on est d'accord. Ça s'est confirmé hier avec le discours du Premier ministre, puisque les éléments qui sont donnés sont largement contradictoires. On voit bien que, par exemple, pour ce qui est des écoles, on considère que les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour ouvrir les lycées, ce qui est vrai, et ce qui est parfaitement vrai. Et à ce titre, on ne voit pas pourquoi il pourrait y avoir un maintien de l'oral du bac français. Là, c'est pareil, personne n'en parle, alors que c'est absolument sidérant au niveau sanitaire, et je ne parle même pas du point de vue pédagogique. Mais on considère que les élèves de maternelle et de primaire peuvent recommencer comme si de rien n'était. Et en plus, on a une manipulation depuis plusieurs semaines là, de l'opinion publique, avec le discours des enfants qui ne sont pas gravement contaminés. Alors on sait que c'est faux en plus, il y a des risques avérés quand les enfants sont contaminés, mais en plus on ne parle jamais des parents de ces enfants, on ne parle jamais non plus des personnels qui vont les accueillir. Or il y a zéro donnée sur les taux de transmissibilité, donc à partir de là on devrait appliquer un principe de précaution et puis réorganiser, je dirais, tout ce qui est au niveau de l'enseignement, puisque là il y aura un trou effectivement et qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on est en train de perdre un certain nombre d'élèves et c'est pas 5 à 8%, on est bien au-delà. Et donc il y a besoin de faire un collectif budgétaire pour la rentrée et puis un plan d'investissement massif hein, dans l'éducation comme dans beaucoup de services publics pour réparer les dégâts qui existaient déjà avant mais qui ont été encore accrus par cette crise sanitaire. Donc pour nous, c'est vraiment des considérations purement économiques qui guident ces choix politiques et on ne peut pas être d'accord avec ça.
Alors Grégory, même question pour la CGT 62, le 11 mai, sortie du confinement, comment vous voyez ça?
Je rejoins Catherine, je crois qu'elle a bien résumé les choses. C'est l'économie qui guide notre pays. Le discours de Macron, où il se remettait soi-disant lui-même en cause, bon, on voit bien que c'est toujours le banquier qui est là, hein. Il ne faut pas se leurrer. La deuxième vague, s'il continue à gérer comme ça, elle va arriver, elle va faire des catastrophes. Il y a une inquiétude là-dessus hein, chez les travailleurs, mais aussi chez les retraités et les privés d'emploi, parce qu'il ne faut pas les oublier. L'état d'esprit à la CGT, c'est qu'on est gouverné par des amateurs. Alors, par rapport aux autres gouvernements, c'était pas des amateurs, ils avaient bien calculé les choses. Alors eux, ils calculent les choses, mais en plus, ils sont amateurs. Ça aggrave encore le bordel parce qu'ils nous emmènent au front. Ils vont engranger des morts. Nous, l'état d'esprit, il est très très axé sur il faut qu'ils payent. Et ils vont payer demain toute leur connerie. Voilà. C'est pas aux salariés de payer. C'est pas aux salariés d'aller prendre des risques pour leur santé. C'est pas aux gamins non plus. Et toute cette bande d'incapables, il faudra qu'on arrive à les faire payer demain. Et c'est l'enjeu, on y viendra après, je pense, mais c'est l'enjeu qui nous est commun. Et là, il faudra qu'on arrive vraiment. Parce que le jour d'après, moi, il n'est pas gagné. Hein. Quand je regarde les réseaux sociaux, je prends un exemple très précis. Quand il y a eu les aides pour les plus démunis de 100 euros, j'ai vu un tas de choses horribles. En disant, nous, on va travailler, eux, ils touchent 100 balles, alors qu'ils ne foutent rien de la journée. Donc, on va avoir un travail immense, et il faudra qu'on le fasse, je pense, mes camarades, ensemble, pour avoir une éducation, ce que j'appelle moi une éducation ouvrière, pour dire, mais non, c'est celui qui gagne 300 000 boules par mois qui va expliquer à celui qui en gagne 1200 que si on gagne que 1200, c'est à cause de celui qui en gagne 500. Quoi. Voilà. Donc, il faut inverser les choses et aller chercher l'argent là où il est et ne pas se tromper de coupable. Ça va être tout le travail de demain qu'on va faire ensemble.
Alors, Fabrice, pour Solidaires Pas-de-Calais, la sortie du confinement le 11 mai.
Non, mais on va être exactement sur la même ligne. Hein. Et là, je rejoins Grégory sur la nécessité de travailler en commun. Et donc, par exemple, on ne peut que remercier PFM qui, malgré l'absence du Salon du Livre, Arras, le 1er mai, nous permet de discuter tous les trois aussi hein, et ensemble. En fait, cette date du 11 mai est quand même une vaste mascarade. Grégory a parlé qu'on était face à un gouvernement d'amateurs, mais en plus, ils se foutent de nous. C'est-à-dire que c'est, en plus d'être amateurs, ils se moquent en permanence des salariés et des citoyens qui sont là. Comme l'a dit Catherine, le 11 mai est une date importante qui est là, qui est scandée par l'école. On donne un rôle central à l'école. Elle a un petit peu dit qui était réouvert entre les écoles primaires, le premier degré, les collèges, les lycées. On voit très bien, vu le discours qu'a fait le Premier ministre hier, qu'en réalité, à partir du moment, à l'âge auquel les parents souvent laissent leurs enfants tout seuls à la maison, vers 13-14 ans par exemple, hein, c'est souvent un âge moyen où on commence à laisser les enfants se garder tout seuls à la maison. Et bien, comme par hasard, c'est l'âge à partir duquel le retour à l'école n'est plus quelque chose qui est considéré là comme obligatoire. On ne sait pas pour les lycées pro et les lycées, on verra plus tard, ou peut-être pas du tout. Pour les collèges, on va commencer par les 6e et les 5e. Comme par hasard, c'est exactement l'âge où les enfants peuvent se garder tout seuls. Donc, on renvoie à l'école clairement les enfants pour que les parents puissent aller travailler. Et les conditions de travail ne se sont forcément pas améliorées par rapport à ce qu'on disait au début de nos interventions. Il y aura toujours le même stress de reprendre le travail, toujours les mêmes inquiétudes sur la santé, etc. Donc, ce 11 mai, on est vraiment sur une date économique, sur une date du MEDEF. Et comme l'a dit Grégory, nous, on est aussi sur la même ligne. On est déterminés, il faut faire payer ce qui nous coûte de l'argent. Là, on va accorder des milliards, des dizaines de milliards d'aides ou de prêts à de grandes entreprises qui, les années précédentes, ont accordé des dizaines, voire des centaines de milliards de dividendes aux actionnaires, qui plantent parfois leurs magots dans des paradis fiscaux. C'est clair, il faut d'abord lutter contre ces paradis fiscaux. Il faut faire revenir le pognon des dividendes pour financer l'école, le système de santé, les services publics et l'aide sociale qui ne va pas manquer d'arriver. Parce que Grégory a parlé de la deuxième vague sanitaire qui allait provoquer le virus, mais il faut quand même voir également la vague de licenciements, la méga crise sociale auquel les salariés vont être confrontés après ce 11 mai. Et pour finir sur cette date, hein, de deux éléments, on a déjà une pression dans les entreprises pour une reprise actuelle du travail, pour une reprise progressive de ce travail, donc pression sur les salariés, quitte à faire du chantage à l'emploi. Si on ne reprend pas là, on ferme, donc vous êtes à la rue. Simplement parce que le 11 mai, pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas le début du déconfinement. Pour eux, il faut tourner à plein à partir du 11 mai. Voilà. Le 11, c'est tout, c'est parti, ils y vont à fond. Et donc, ils veulent retourner à la normale, clairement. Et pour nous, c'est cette normalité qui a provoqué la crise, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sanitaire. Et donc, effectivement, ce 11 mai, ça va être un moment important pour nos organisations syndicales qui, dans l'unité, vont devoir montrer leur capacité de mobilisation, malgré les difficultés qu'on a déjà rappelées, aux salariés et pour les soutenir dans la lutte qu'ils vont devoir mener contre leurs patrons, qu'ils soient l'État pour les services publics ou des actionnaires privés pour les autres.
Alors, vos organisations syndicales, avec d'autres mouvements, hein, type ATTAC, la Confédération Paysanne, Alternativa ou Oxfam, ont lancé une pétition intitulée « Plus jamais ça », pétition qui fait suite à l'appel intitulé « Jour d'après pour un futur écologique, féministe et social ». Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes et nous dire quel sens vous donnez à cette nouvelle convergence ? Grégory, c'est toi qui commences.
Eh bien, ça va se résumer facilement, c'est un changement de société. Un changement de société. Toutes les bases actuelles, il faut les casser et repartir sur d'autres bases. C'est-à-dire, les moyens de production doivent répondre aux besoins, déjà, avec la touche écologique qui est importante. On le voit, hein, on l'a vu pour les masques, on l'a vu pour les hôpitaux débordés. Moi, encore une fois, je le dis, j'ai ma gamine qui travaille au centre hospitalier de Seclin. Elle m'en parle, quoi. On voit les écoles aujourd'hui, quand on prend le dédoublement des classes, par exemple, de CP, de CE1, certains enseignants nous disent que c'est une bonne chose. Ceci dit, on ne donne pas les moyens aux mairies, parce que c'est les mairies qui ont dû pousser les murs. Donc, et l'État se remet beaucoup sur les collectivités territoriales, notamment, sans pour autant donner les moyens, faire donner des moyens. CICE, exonération fiscale, etc. C'est ce que disait Fabrice. Tout ça, il faut le casser, ça. Il faut le casser. Il faut les faire payer pour avoir des services publics de qualité. Moi, je me rappelle, mon patron, je travaillais à Filartois, on faisait une ferme, ils ont mis pression au parc Artois-Flandre à Douvrin pour, alors je me rappelle plus quelle c'est la route nationale, mais pour que ce soit le département qui fasse une nouvelle route pour que l'on puisse arriver. Donc, on leur donne de l'argent, des infrastructures, et puis eux, ben, l'argent qui gagne sur la sueur des travailleurs, ça part chez les actionnaires. Donc voilà, c'est un autre mode de société qu'il nous faut, une répartition des richesses, investir dans l'humain, dans les salaires, dans les services publics, c'est hyper important, et ce qui n'est pas encore dans le public, des parties stratégiques notamment l'énergie, etc., il faut que ça revienne entièrement, la poste, il faut que ça revienne entièrement dans le giron public.
Fabrice, sur la même question ?
Alors oui, là je vais rejoindre et renforcer ce que dit Grégory là-dessus. Cet appel, il est parti d'une conscience chez nos organisations qu'effectivement, cette crise était due, comme je le disais juste avant, au système capitaliste actuel, au système productiviste et limite au consumérisme à tout va hein, dans notre société. Et il est évident qu'il y a trois points dans cet appel hein, qui vont aller dans le sens de ce que réclame Grégory. Il est vraiment scandé autour, par exemple, de la fiscalité. Comme je l'ai déjà un petit peu dit avant, entre la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre les dividendes excessifs, voilà, ça sont des points importants. Il ne faut jamais oublier que la fiscalité, ce n'est pas quelque chose qui est un poids pour notre société, c'est une méthode de redistribution des richesses. Et comme l'a dit Grégory, c'est ce qui nous permet de renforcer les services publics. On le voit avec cette crise, qui sont plus qu'indispensables à la société, que ce soit dans le système hospitalier, que ce soit à l'éducation, que ce soit dans les collectivités territoriales, entre autres, évidemment. Hein. Et sans parler de ce que nous pourrions parfaitement socialiser dans notre système de production. Ça serait un débat qui pourrait être encore plus long sur ce qu'on socialise ou pas. Mais cette idée de fiscalité est extrêmement importante. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que le MEDEF n'aime pas du tout hein, quand on parle de fiscalité. Dans cet appel, il y a un autre point important, c'est que c'est une vision féministe hein, de la future société, parce que le capitalisme a effectivement engendré une société patriarcale. C'est extrêmement lié. On le voit bien, le confinement fait exploser les violences faites aux femmes. Ça fait exploser l'isolement social des femmes, et y compris les violences envers les enfants fragiles. Et donc, effectivement, la société se doit également d'être féministe derrière, qu'on arrive enfin à la conquête de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et il y a un troisième point qui est très mis en avant dans cet appel, c'est l'aspect écologique. Il est évident que beaucoup du monde se sont félicités qu'avec le confinement, la pollution avait diminué. On a tout à craindre. Comme après la crise économique de 2008 qui avait fait diminuer un peu la pollution, on a tout à craindre que le retour d'activité à plein fasse exploser à nouveau les chiffres de pollution sur la planète et que le peu qu'on ait gagné dans ces quelques semaines soit perdu très rapidement. On voit le culot du MEDEF qui a par exemple demandé à ce que les mesures anti-gaspi du début du mois soient supprimées. Voilà. Donc on en est là dans la conscience écologique des grands patrons. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel. On a besoin d'une autre planète pour réussir à faire vivre les générations futures. Je prends juste l'exemple, hein, dans cet appel, on parle de relocalisation de l'agriculture, de l'industrie, etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Réapprendre à vivre avec l'environnement qui nous entoure. Alors quand on dit relocalisation, je ne parle pas de chauvinisme à caractère national. C'est vraiment réussir à vivre et faire vivre l'économie qui est directement autour de nous et éviter de faire venir des produits de l'autre bout de la planète.
Alors Catherine, toi aussi, la lutte pour un futur écologique, social et féministe ?
Oui, bien évidemment, c'est un vrai changement de société, comme cela a été déjà dit. Je crois que cette crise, ce qu'elle a mis en exergue, a vraiment montré de façon exacerbée, c'est que ce gouvernement, avec bien évidemment le MEDEF qui le guide, qui fait plus que le guider, joue avec nos vies. Il joue avec nos vies au sens concret du terme, sanitairement, mais joue avec nos vies professionnelles et nos vies sociales d'une manière générale. Et que ça, on doit là encore reprendre la main, on ne peut pas les laisser continuer de cette façon-là. C'est pour ça que cet appel-là, il est important, parce que c'est le moment où jamais de changer de modèle de société. Hein. Ça a été dit précédemment aussi. Alors que ça passe pour nous aussi, bien évidemment, par une remise en cause de la fiscalité, une redistribution des richesses et donc des investissements dans tous les services publics qui existent et qui ont été déjà malmenés, mais la création de nouveaux services publics, hein, service public de l'énergie, service public de protection de l'environnement, un service public, on pourrait imaginer aussi, de l'alimentation pour garantir des besoins, enfin la satisfaction des besoins élémentaires à tous. On pourrait vraiment développer ça. On peut se dire qu'on se retrouve un petit peu dans une situation un peu parallèle à la fin de la guerre. Nous, on n'a pas du tout apprécié hein, le parallèle qui a été fait par Macron, c'est pas cette idée-là, mais cette idée que dans une situation de grande détresse sociale, comme il y a eu les Jours Heureux et puis le Conseil National de la Résistance, on a aussi à projeter quelque chose, c'est un peu le but de cet appel-là, et de construire des choses pour que ce ne soit plus jamais comme avant, parce que ça va pas se faire tout seul. Les remerciements aux soignants et aux autres, aux femmes, hein, notamment, qui sont sur le pied de guerre, j'allais dire encore une fois, pour faire tourner le pays, ne coûtent pas cher. Donc maintenant, il faut payer. Il faut payer et passer aux actes concrètement. Et ça aura bien évidemment, alors ça touche également l'égalité homme-femme. Il y a des choses, il y a du concret à faire qui est toujours pas fait. Hein. Il y a beaucoup de discours, mais il n'y a toujours rien de fait. Et bien évidemment, au niveau de la protection de l'environnement, du changement climatique, c'est le moment ou jamais.
Voilà, alors nous arrivons au terme de cet échange. Toutefois, si vous avez un petit mot de conclusion à proposer aux auditeurs et aux auditrices, eh ben, c'est le moment de le faire. Fabrice, peut-être pour commencer.
Oui. Moi, en mot de conclusion, j'aimerais vraiment convaincre tout le monde que cette crise doit être utile aux salariés, cette crise doit être utile à notre société. On a moyen, avec l'aide de nos trois organisations syndicales au moins et d'autres associations, de faire quelque chose, de construire un autre monde avec tout le monde. Un autre monde qui soit pas extrêmement centré sur la valeur travail et qu'on retrouve, par exemple, du temps libre, qu'on retrouve des loisirs, qu'on retrouve la joie de vivre ensemble pour réussir à faire un monde effectivement plus écologique, plus féministe et évidemment beaucoup plus social.
Catherine, un petit mot de conclusion aussi ?
Oui, ben je crois que l'idée de travailler tous ensemble, alors on travaille en interpro depuis assez longtemps, on a travaillé beaucoup cet hiver également sur la question de la réforme des retraites, mais il faut absolument qu'on poursuive ce travail-là avec nos organisations syndicales et l'ensemble des associations là qui sont dans l'appel pour qu'on montre qu'on est un vrai contre-pouvoir et qu'on puisse imposer nos vues dans les semaines, dans les mois qui viennent et pour l'avenir, s'il y va vraiment de l'avenir des jeunes, des laissés pour compte, hein, des privés d'emploi, des retraités, etc., de tous, en fait, qu'on crée vraiment un nouveau modèle social.
Voilà, Grégory, tu as le dernier mot de conclusion.
Ouais, ben moi, je pense qu'ensemble, il va falloir aller chercher ceux qui applaudissent et qui n'étaient pas dans les luttes hier, comme on faisait, comme le dit Catherine, des manifestations à Arras, par exemple, entre autres, et qu'on se disait, 2000, c'est pas si mal. Ceux qui applaudissent, eh ben, faut qu'ils viennent et puis on sera 10 000. Voilà. Et puis je pense, ensemble, qu'on se retrouvera, mais avec nos troupes, demain, on se retrouvera encore plus fort. En tout cas, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Que la seule guerre que nous devons mener, nous, syndicalistes, c'est contre le capitalisme. Ça, c'est clair, net et précis. Avec les enjeux que vous avez dit, hein, écologiques, voilà. Et, enfin, dans ce pays, parce que moi j'ai 44 ans, je ne l'ai pas connu, mais enfin, je ne sais pas si ça existait d'ailleurs, mais qui est de l'humanisme avant de penser à l'économie, et c'est ça, je pense, le directeur, c'est ça qui nous fait vivre syndicalement.
Eh ben, merci beaucoup. Nous étions en compagnie donc de Catherine Piécuche, secrétaire départementale de la FSU du Pas-de-Calais, Grégory Glorian, secrétaire départemental de la CGT 62, et de Fabrice Aubaton, secrétaire de l'Union départementale Solidaire 62. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je vous souhaite un bon 1er mai et un bon jour d'après. Et puis, on se retrouvera bientôt.
Oui. Bonjour, bon 1er mai à tout le monde et bon jour d'après.
Ouais. Bonne lutte d'après à tout le monde aussi.
Je vous embrasse. Ciao.